Vous écoutez RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Muriel Pénicaud, ministre du Travail.
Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Merci d'être dans ce studio d'RTL au lendemain du vote définitif de la loi travail hier à l'Assemblée nationale, très large majorité. Quand est-ce qu'elle aura des effets sur les embauches, sachant que qu'un des objectifs, vous l'aviez dit, c'était de lever les freins à l'embauche des entreprises?
Alors la loi sur le renforcement du dialogue social, comment en savoir des effets? Mais on aura aussi beaucoup à moyen terme. Des effets pourquoi? Parce que les ordonnances sont publiées depuis le 22 septembre et qu'on voit, j'ai vu beaucoup de, notamment de chefs d'entreprise et de salariés dans les TPE, les PME, les petites et moyennes entreprises. Il y a, oui, il y a un réflexe de confiance accru qui fait que, avec la croissance qui repart en même temps, bien sûr, il faut démarcher pour créer de l'emploi. Il y a cette envie de créer des emplois. Mais ceci alors, dit, des c'est envies... surtout du travail, c'est surtout des effets à moyen long terme. Et il faut aussi les conjuguer avec tout ce qu'on va faire sur la formation, l'apprentissage. Parce que maintenant, il faut que les entrepreneurs trouvent des compétences. Et les marchés repartent, mais il faut aussi qu'ils trouvent des compétences.
Les compétences, on va y revenir avec votre nouvelle loi. Mais vous l'avez dit, le chômage, vous l'avez dit, vous le savez, le chômage reste très élevé. Les chiffres font du yo-yo. On a encore vu une légère hausse du chômage le mois dernier. Alors, vous ne commentez pas au mois le mois les chiffres, mais enfin, la tendance n'est pas encore très nette. La reprise économique est là. Pourquoi ça ne se voit pas sur le marché de l'emploi?
Alors, la reprise économique est là, mais il y a encore, d'abord, on est dans une économie en pleine mutation, donc il y a des créations d'emplois, mais il y a des destructions d'emplois.
Et puis aujourd'hui,
il y a plus de créations d'emplois. On est en création d'emplois importante, mais pour faire baisser le chômage, on a 150 000 personnes nouvelles qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Donc on commence à faire baisser le chômage quand on crée plus de 150 000 emplois, ce qui est le cas, mais donc ça peut pas être du jour au lendemain. Et puis surtout maintenant, il faut qu'on travaille aussi sur les compétences, parce que comme on a eu un chômage de masse pendant très longtemps, malheureusement, il y a beaucoup de demandeurs d'emploi qui ont un peu perdu leur métier ou dont le métier a évolué. Il faut leur donner la chance d'acquérir une nouvelle qualification qui va leur permettre de bénéficier de cette croissance pour
Ça veut dire aujourd'hui, concrètement, trop d'emplois non pourvus et trop de chômeurs sans qualification. C'est ça l'état du marché demandeurs d'emploi.
Donc voilà, il y a une action à mener entre les deux. Ça va être l'objet du grand plan d'investissement compétences et des prochaines réformes, c'est de
compétences,
réduire.
Compétences, c'est le nouveau mot. Vous l'avez déjà dit 2-3 fois et la semaine dernière, vous avez écrit dans Le Monde, je veux construire une société de compétences. Juste combien d'emplois non pourvus aujourd'hui?
On ne sait pas exactement, mais il y a des chiffres contradictoires parce qu'il n'y a pas un répertoire national.
Mais quel étiage? Quel niveau?
C'est évidemment plus que quelques dizaines de milliers d'emplois.
Des centaines
de milliers, mais je ne sais pas combien.
Et pourquoi vous ne voulez pas, d'ailleurs, juste par parenthèse, pourquoi ça a l'air d'être aussi touchy, si sensible de mesurer précisément le nombre d'emplois?
Ils s'en créent tous les jours, donc c'est compliqué à mesurer.
Alors, votre deuxième réforme en cours, c'est de précisément modifier le système de formation, construire cette société de compétences. Vous avez écrit aussi la semaine dernière qu'il était aujourd'hui trop centré et focalisé sur la gestion des dispositifs. C'est-à-dire que la politique actuelle, c'est d'entretenir des dispositifs qui ne sont pas pertinents.
Je crois que les dispositifs de formation et d'apprentissage, et chacun d'entre nous peut le voir, ne sont pas à la hauteur des besoins. Aujourd'hui, il y a seulement un chômeur sur 10 chaque année qui peut se former, alors qu'on sait très bien que la qualification, c'est la meilleure protection contre le chômage. À Bac plus 2 et au-dessus, il y a simplement un peu plus de 5% de chômage.
Un chômeur sur 10 seulement qui a une formation, alors que ce sont eux qui en ont le plus besoin.
Quand on n'a pas de qualification, c'est 18%, donc presque 1 sur 5 qui n'a pas, qui est au chômage. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur. Et aujourd'hui, dans les entreprises, c'est pareil. Si vous êtes salarié d'une petite entreprise, vous avez 1 chance sur 3 d'accéder à une formation, 2 chances sur 3 dans une grande. Si vous êtes ouvrier ou employé, vous avez 1 chance sur 3 d'accéder à la formation, 2 chances sur 3 si vous êtes un cadre. Or, tout le monde va avoir besoin de compétences. Les métiers se transforment. On estime à 1 emploi sur 2 qui va être transformé dans les 10 ans qui viennent. On le voit bien, le numérique, transition écologique, ça touche tous les métiers. Et donc, c'est un enjeu pour que chacun puisse vraiment choisir sa vie professionnelle, pas subir, avoir une protection contre le chômage. C'est un enjeu stratégique pour les entreprises, mais stratégique pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que les dispositifs actuels, ils sont d'abord très compliqués, parce que qui sait se servir de son compte personnalisé de formation? Est-ce que vous savez?
C'est resté quand même assez abstrait.
C'est resté très abstrait, donc il faut rendre quelque chose qui est très simple pour l'usage de chacun. Et puis
qui sera très individualisé, à portée de main, à portée de, voilà, de clic.
À portée
si
d'un clic, d'un téléphone, ou d'un conseil, ou d'un téléphone, pour ceux qui sont moins à l'aise. Il faut que ce soit à portée de chacun. Et puis que, voilà, on change aussi d'échelle, que ce soit beaucoup plus simple.
Alors, par exemple, il y a 66 000, je crois, organismes de formation aujourd'hui.
Oui,
Est-ce que vous allez faire, trier le grain de livret ou...
Alors, le nombre, ce n'est pas le sujet, mais la qualité peut l'être. Donc, on va, oui, mettre en place un système de certification pour les organismes.
Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui des organismes qui ne font pas de qualité.
Chacun, les gens qui ont été dans un stage, eh ben, ils pourront savoir combien de personnes ont eu le diplôme, s'il y en a un, combien de personnes ont eu un emploi derrière, combien ils ont été payés. Puis ceux qui ont été en formation, ils pourront témoigner aussi, vous savez, comme le TripAdvisor. Comme ça, la qualité, on va la réguler un peu par le haut, mais aussi par les citoyens pourront dire ce qu'ils pensent.
Ça, c'est premier changement, c'est pour quand ?
Alors ça, c'est appli numérique, cet accès à la formation, ça c'est un chantier de grande échelle parce qu'il s'agit de toutes les formations pour tous les actifs en France. Donc là, on en a quand même pour 12-18 mois. Et puis, dans la réforme de la formation professionnelle, j'ai demandé aux partenaires sociaux de réfléchir aussi sur justement ce changement d'échelle et puis capacité pour chacun de pouvoir s'y repérer. Un cadre collectif, il y aura du conseil pour ceux qui le souhaitent. Il faut que chacun soit quand même libre de ses choix et non pas subisse simplement ce qu'on lui propose ou ce qu'on ne lui propose pas.
Donc, dans 2 ans à peu près, on peut imaginer qu'il y aura cette individualisation,
ce
compte de formation sur son téléphone, avec la possibilité chacun d'être plus maître de son destin, avec quand même, parce que c'est ça le but, c'est quand même que ce soit conforme aux besoins des entreprises, sinon on rate la cible.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faudra que dans les informations, il y ait combien son emploi ou derrière. Mais alors, on travaille par ailleurs avec les branches professionnelles, avec les partenaires sociaux, sur ce repérage des besoins des entreprises.
Les partenaires sociaux, ce sont eux qui organisent la collecte de l'argent aujourd'hui, non ?
Oui.
C'est combien d'ailleurs ? 31 milliards ?
Alors non, 32 milliards d'euros. Dedans, il y a 13 milliards pour les salariés, 6 milliards pour les fonctionnaires, 6 milliards pour l'alternance et 6 milliards pour les demandeurs d'emploi. Donc tout n'est pas pour les salariés.
L'apprentissage progresse ou baisse en France ? Est-ce que vous avez les derniers chiffres ?
L'apprentissage, depuis des années, est quasi stable. Enfin, il a baissé beaucoup il y a quelques années. Et il est
progresse
un
pas.
C'est un étiage de simplement... Il y a seulement 400 000 apprentis en France. Et pourquoi c'est dommageable ? Ça veut dire que seulement 7% des jeunes en France ont la chance, et je dis bien la chance, d'aller en apprentissage. Or, 7 apprentis sur 10, 7 mois après, ils ont un emploi. Donc, c'est vraiment un départ dans la vie qui est très important.
Ça fait que ça fait 20 ans qu'on dit que l'apprentissage ne marche pas en France, qu'il y a des freins culturels. 20 ans, quand je dis 20 ans, c'est 30 ans.
Moi, j'ai toujours entendu ça, donc voilà. Mais moi, je pense que les temps changent. Pourquoi ? Parce que, d'abord... Je pense que tout le monde est concerné, dans sa famille, autour de soi, dans son voisinage, par le chômage des jeunes. Il y a 1 300 000 jeunes en France qui ont pas de sont pas en formation, pas en emploi. Donc ça, c'est une priorité absolue. La deuxième chose, c'est qu'avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, mes collègues de l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, on veut faire une réforme où aussi on pourra faire des passerelles. On pourra préparer le CAP ou le bac pro par l'apprentissage, revenir au lycée, revenir à l'université, repartir faire, je sais pas quoi, l'ingénieur ou le master en apprentissage. Ça va changer aussi l'état d'esprit. Parce qu'aujourd'hui, les familles et les jeunes, ils ont peur d'être dans une voie, après ils sont coincés.
Il pourrait y avoir des bascules entre les différents statuts.
Voilà, il faut qu'il puisse y avoir des passerelles.
Les régions, elles auront leur mot à dire parce que elles financent aussi beaucoup.
Les régions font partie évidemment des partenaires importants.
Il y a le dossier compliqué de l'assurance chômage. Quand est-ce que vous l'a lancé vous avez
dans
pris
quelques
le
jours.
Oui, c'est-à-dire quand est-ce que vous. C'est vrai, un petit peu de retard. Vous pouvez l'admettre.
J'avais dit avant fin novembre, ça sera tout début décembre. Je vous prie de m'excuser infiniment.
La semaine prochaine, vous réunissez tous les syndicats à Matignon, par exemple, pour lancer la réforme.
Ça va être dans quelques. Je dirai très bientôt quand, mais
la semaine prochaine.
Ça sera avant le 15 décembre.
Avant le 15 décembre. Quelques questions. Emmanuel Macron avait promis d'indemniser les démissionnaires et les indépendants. Ça, c'est assez populaire. Les indépendants, c'est aussi bien le médecin que le chauffeur de VTC, que l'auto-entrepreneur. Enfin, c'est aussi différent que ça.
C'est le travail préparatoire qu'on est en train de préparer, qu'on est en train de faire. Bien sûr, ça ne va pas concerner forcément tous les indépendants. Bon, les médecins libéraux, ils ne demandent rien, par exemple, parce que c'est pas leur sujet, c'est pas de quoi il s'agit. Il s'agit d'apporter un filet de sécurité à tous. Et donc, évidemment, les travailleurs qui sont sur les plateformes, des micro-entrepreneurs, des artisans qui font faillite, oui, ça peut les intéresser.
Assez compliqué comme réforme, hein. C'est pour ça que vous prenez du temps.
N'avons pas peur de réformes compliquées si elles sont justes.
Juste, Jean-Claude Mailly, à votre place hier, disait qu'elle ne toucherait cette réforme ni à la durée, ni au montant des cotisations actuelles. Vous confirmez ?
C'est ce que j'avais dit aux partenaires sociaux, on ne va pas toucher le cœur du réacteur.
Donc ça ne bouge pas. Ça ne bougera pas.
Là, on élargit à des nouveaux engagements. À des nouveaux bénéficiaires, en fait.
Et bien, on verra si ce n'était pas une prise de risque de prendre cet engagement. Les auditeurs ont beaucoup de questions à vous poser. Vous les retrouvez avec Yves Calville tout à l'heure. Merci, Maïal Pénicaud.
Merci.
Question posée au 3210 et au 64 900 code matin. On vous retrouve après un café, Madame Pénicaud. Merci de rester avec nous.